Ça fait partie des petits jeux débiles, chronophages et surtout parfaitement dispensables auxquels on est régulièrement invité à participer sur les réseaux sociaux et on y cède. En tout cas, moi, ça m'arrive parce que foutu pour foutu, après avoir répondu au test « Quel Pokémon êtes-vous ?», je peux bien gâcher 10 minutes de plus et jouer à la liste « Tu es vieux quand ?». Ça consiste à faire la liste des marqueurs prouvant que vieillir, c'est renoncer et voilà ce qu'on peut lire dans ces fameuses énumérations. Tu sais que tu es vieux quand tu as connu les wagons fumeurs dans les trains. Tu sais que tu es vieux quand ta gueule de bois dure 72 heures. Tu sais que tu es vieux quand tu appelles la police pour te plaindre du bruit des voisins parce que c'est pas fini ce ramdam. Tu sais que tu es vieux parce que tu utilises des expressions comme ramdam. Alors oui, c'est rigolo, mais ces réponses sous-entendent que vieillir, c'est être moins désirable, que la vieillesse, c'est forcément une déchéance physique, intellectuelle ou morale. Et peut-être que si les vrais vieux se livraient à l'exercice, les réponses seraient un peu moins légères. Tu sais que tu es vieux quand on te considère au choix comme un grand sage ou comme un boulet. Comment expliquer ce paradoxe? On se réjouit de l'allongement de la durée de vie et on redoute la vieillesse. Certains emploient même l'expression « le péril gris ». Comment la France traite ses vieux? C'est la question au menu du débat de midi.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et j'accueille mes jeunes et fringants invités. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Vous êtes président du Cercle des économistes, directeur de la chaire Transition démographique, Transition économique. Et vous avez publié L'erreur de Faust, un essai sur la société du vieillissement. C'est quoi la société du vieillissement en deux mots?
L'idée, c'est au-delà du terme de vieux que vous avez employé, c'est nous préférons le terme de senior. C'est au fond les gens qui passent dans un domaine de retraités ou de, et c'est vrai que ça couvre une population beaucoup plus large que celle que vous avez évoquée au début. Et la conviction que nous avons, c'est que la société de vieillissement dans laquelle nous allons rentrer, c'est une première dans l'histoire du monde, puisque à la fois la baisse des taux de fécondité et la longévité de la vie, donc modifie complètement l'organisation. C'est une rupture absolue partout dans le monde. C'est pas un problème spécifiquement français, avec des modifications extrêmement importantes. Et si je prenais le mot de péril gris, je le prendrais plutôt comme un problème politique. Est-ce que les 30% de plus de 60 ans dans les 10 ans qui viennent ne vont pas avoir tendance à en réalité s'approprier une large partie de ce qu'ils font déjà sur le patrimoine, sur les revenus, avec une partie des retraites et donc une partie du pouvoir politique. Donc c'est ça pour moi le péril gris.
On va revenir sur cette expression très discutée, très discutable, péril gris. J'accueille également le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie et en éthique médicale et vous êtes psychiatre de la personne âgée à l'hôpital Émile Leroux. Est-ce que ça fait partie des nombreux hôpitaux qui sont en grève depuis quelques mois maintenant en France ?
Oui, bien sûr, car les personnes âgées qui peuplent les près de 1000 lits de mon hôpital requièrent énormément de soins, notamment de soins de longue durée, et on va nous supprimer des lits de soins de longue durée pour les accueillir.
Oui. On y reviendra également. Nicolas Munet à vos côtés, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur général de, alors accrochez-vous, Silver Valley, c'est un cluster accélérateur de start-up. Alors avant que les défenseurs de la langue française ne s'étranglent, est-ce que vous pouvez traduire en quelques mots encore une fois et en français ?
Silver Valley est une association loi 1901 d'intérêt général et nous accompagnons des innovateurs qui s'intéressent à la longévité, et nous avons aujourd'hui plus de 300 projets d'innovation qui sont accompagnés par nos services. Donc on va leur permettre d'accéder au marché, de comprendre mieux les besoins et les attentes des personnes qui avancent en âge. On va leur permettre de rencontrer toute une série de parties prenantes qui vont financer les projets et permettre vraiment à la société française de devenir une réelle société de la longévité.
Avec ce qu'on appelle donc la silver economy.
Exactement.
Ouais. Une première question, je parlais en préambule du fait de sentir vieux, de la perception de la vieillesse. Est-ce qu'il y a un âge auquel on est vieux, docteur? Est-ce qu'on devient vieux à 60 ans, à 65 ans? Et qu'est-ce qui décide? C'est la sécurité sociale? C'est l'entreprise? C'est la société?
Alors on est toujours le vieux d'un autre. Mais non, il n'y a pas un âge où on est vieux. Alors je vais dire, comme pour la météo, il y a un ressenti du vieillissement. Et tout d'un coup, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ride de vélos qui est arrivée, etc. Alors pour la retraite, vous avez vu que le débat se décentre. Personnellement, je suis praticien hospitalier, je vais travailler jusqu'à 70 ans et j'en suis très contente. Je serai plus vieille que mes vieux. Mais on est vieux pour l'OMS à 60 ans. On est senior à partir de 45 ans, ce qui intéresse monsieur Laurent.
On est senior à partir de 45 ans.
Ah oui, c'est un terme qui vient des grands sportifs.
Alors senior, c'est en entreprise en gros. Oui, mais on emploie initialement le terme senior pour décrire le travailleur.
Oui, et moi qui suis psychiatre et gériatre, eh bien, on est vieux pour la société à partir de 75 ans. C'est-à-dire que les personnes que je reçois ont 75 ans et plus.
Jean-Ravel Lorenzi, on est vieux dans une entreprise à 45 ans?
Oui, bien sûr. C'est particulier à la France. La France a, comme vous le savez, un problème de chômage. Et le chômage ne concerne pas la génération de 30 à 45, un peu plus. Mais avant 30 ans, gros taux de chômage. Après 50 ans, on s'en débarrasse. Et c'est une des raisons pour lesquelles les problèmes de chômage dans notre pays sont si compliqués à résoudre. Alors c'est là où les termes même de vieux ou de senior sont si importants. C'est qu'au fond, évidemment qu'un senior, je sais pas quoi, moi, en physique nucléaire, c'est meilleur à 50 ans qu'à 30 ans, enfin en moyenne. Et ça, notre société, la société française, c'est très particulier, ne l'accepte pas avec cette discussion que nous avons sur l'âge de départ à la retraite, qui est très respectable, hein, je veux dire, je suis comme vous, je suis aussi un universitaire, donc tant mieux de pouvoir rester plus longtemps, mais je respecte les gens qui considèrent que travailler, c'est le départ à la retraite, c'est la libération de contraintes insupportables.
Nicolas Menet, on a le droit de dire vieux, je le fais depuis l'émission, puis vous aussi d'ailleurs, on a le droit de dire vieux ou c'est un gros mot, parce qu'il y a énormément d'euphémisation, de litote, de pudeur, comme si c'était un gros mot, donc on va parler de personnes âgées, de seniors, et vieux c'est un mot qu'on entend assez peu ou qu'on lit assez peu.
Moi, je pense qu'il faut employer le terme vieux, puisque les vieux eux-mêmes se dénomment comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de retraités, ils parlent d'eux en tant que seniors également, mais ils disent, mais on est vieux et on le sait, et voilà. Donc oui, on peut employer le terme vieux, et moi, je milite justement pour qu'on puisse réhabiliter le terme de vieux, et heureusement, de plus en plus de personnes l'utilisent.
On va discuter des vieux en France, juste après le jeune et fringant, lui aussi Bertrand Belin de Corps et d'Esprit.
Go.
Midi 15 sur France Inter, on s'interroge dans le débat de midi sur la place des vieux en France. C'est une émission préparée par Caroline Pommès. Aujourd'hui, derrière la vitre à la technique, Stéphane Beaujat et Paul Percheron.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux.
C'est pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir.
Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux.
Oh, tu sais, à mon âge, quand on a son petit paquet de tabac...
Vieillir est un naufrage.
Le péril gris vieillissement.
Comment trouver 10 ou 20 milliards peut-être pour financer l'arrivée des baby-boomers dans ce qu'on appelle le grand âge à l'horizon 2030?
Eh ben, je dis que quand on est vieux, on sait quand c'est qu'on se baisse, mais on sait pas quand c'est qu'on se relève.
Ce qui se passe sur le marché du travail, c'est que dès 55 ans, vous êtes considéré comme un yaourt, vous avez atteint votre date de péremption, donc vous êtes plus bon à rien.
C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité.
Face au grand âge, nous devons là aussi assumer, donner de la visibilité. Depuis des années, on fait comme semblant que ça n'existe pas totalement.
Parce que ces vieux-là, je suis bien placé pour les connaître.
Là, vous nous avez vraiment pompé.
Non, c'est pas vrai.
Mais je vais vous expliquer.
Les retraités, dites donc.
Les retraites, ce n'est pas une aide, c'est un dû. Les retraités ne sont pas des nantis. Les retraités, ils ont cotisé 40 ans pour obtenir cette retraite. Ils ne l'ont pas volée.
Quand on est vieux, il vaut mieux aller chez les vieux.
Non, la maison de retraite, ça ne me dit pas. Bah puis c'est le prix. À Cloix, j'en ai fait une à 2500. Alors moi, je peux pas payer ça.
Mais le gars, faut pas vieillir. On a le droit de tout faire, à te voler, de piller, mais faut pas vieillir.
Une réaction d'auditeur qui aurait eu sa place dans ce petit zapping, c'est une réaction de Dominique. Voilà ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit. Ce qui m'énerve, c'est l'âge dans la tête. L'âge, c'est dans la tête. L'expression, l'âge, c'est dans la tête. Cette affirmation culpabilise si on n'est pas aussi performant. Je réponds aussi toujours que l'âge, c'est un peu dans les articulations aussi. L'âgisme, c'est un mot qui n'est pas tellement employé dans le débat public et qui décrit une discrimination réelle dont sont victimes les personnes âgées. Quelle forme est-ce que ça peut prendre, docteur, l'âgisme? Ça consiste en quoi?
Bien, c'est une contraction du mot grand âge et du mot racisme. C'est le racisme anti-vieux, puisqu'on emploie le mot vieux. Et ben, ça peut consister tout simplement à éviter de donner des médicaments trop chers, trop onéreux aux personnes trop âgées ou dans la grande dépendance. Ça peut consister à claquemurer les vieux en dehors des urgences, par exemple, où elles sont malmenées. Mourir sur un brancard aux urgences n'est vraiment pas souhaitable aujourd'hui. Et vous savez les difficultés qu'on a à accueillir nos personnes âgées aux urgences, hein, puisque les urgences sont avant tout l'endroit où les personnes âgées vont. Et moi, j'ai vécu la canicule de 2003 et c'était vraiment quelque chose de dramatique. Il y a eu un âgisme à ce moment-là, 15 000 morts, des personnes âgées, et j'ai entendu dire, bah, tant mieux, ça va faire la place aux jeunes.
Nicolas Menet, c'est aussi l'âgisme, un ensemble de stéréotypes, de préjugés, de petites phrases, hein, l'âge c'est dans la tête, tu fais pas ton âge, etc. Quel impact ça a à la fois sur les personnes concernées, sur les vieux, et sur l'ensemble de la société, sur la représentation qu'on se fait de la vieillesse?
Ça, c'est vraiment le sujet de mon dernier essai, hein, Construire la société de la longévité aux éditions Erol, où j'explique en fait qu'aujourd'hui la société française et globalement la société européenne, qui a à peu près la même histoire, aussi entre deux représentations de la vieillesse, qui est le senior centre de coût, donc celui qui est dépendant, celui qu'on vient de citer, celui qui va coûter cher à la société, et le senior centre de profit, parce que il a travaillé toute sa vie, il a sa retraite, il a son patrimoine. Et donc on va pouvoir le solvabiliser au maximum pour relever l'économie française. C'est vraiment des grands stéréotypes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces stéréotypes sont, là j'emploie un terme de psychiatrie, sont introjectés, sont intégrés par les personnes au point qu'ils croient que c'est leur propre identité.
Intériorisés,
exactement. Et la question aujourd'hui, enfin moi je fais de la lutte contre l'âgisme la première brique de la société de la longévité. Si on veut créer une société inclusive pour tous les âges, il faut absolument que le regard sur le vieillissement change. Et c'est vrai que le gouvernement actuel travaille sur ces questions-là actuellement.
Et est-ce qu'on a une forme de tolérance pour l'âgisme? On va s'indigner quand on est témoin d'un acte de racisme ou de sexisme. L'âgisme, ça dérange personne. On le fait même tous un peu.
L'âgisme se trouve à tous les niveaux de la société. Il suffit d'entendre des adolescents qui rigolent dans la rue, tu marches comme une mamie, de voir des publicités qui mettent en valeur effectivement des personnes âgées. Le fait de mettre une personne âgée en valeur qui fait du parachute ou qui est super trendy, etc. C'est de l'âgisme, c'est un âgisme positif. Il faut savoir que l'âgisme aujourd'hui, c'est quand même la première discrimination avant toutes les autres, et notamment dans les entreprises.
C'est quel chiffre, ça vient d'où ?
L'agisme est la première discrimination.
Quelle est la source de ce chiffre?
J'ai pas la source là maintenant à vous le dire, mais ça a été, c'est quelque chose qui est vraiment connu. C'est-à-dire que l'agisme, il est complètement latent, il est au quotidien, en permanence dans nos représentations.
Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on se réjouit de vivre plus longtemps. Il y a des magazines qui titrent bientôt tous centenaires en s'en réjouissant, et en même temps la société a peur de vieillir. Comment est-ce que vous l'expliquez, Jean-Hervé Lorenzi, ce paradoxe?
Moi, je crois pas trop à ces histoires que la société a peur de dire. Je crois que c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. C'est une société qui rentre dans dans des tensions très fortes, qui sont notamment sur la répartition des revenus. Quand on parle des vieux, j'ai quand même un souci entre la personne très âgée, je parle pas des gens dépendants, hein, mais je parle des gens qui continuent à vivre et qui est au sixième étage et qui s'interrogent sur le fait de savoir si elle va pouvoir acheter une baguette, et le retraité aisé qui finalement vit très bien et qui va en croisière sur je sais pas quoi, dans un gros bateau. Ça n'a rien à voir. Donc c'est une société d'abord, la partie des plus de 60 ans, totalement dispersés, et qui, si on n'y prend pas garde, à la fois, va virer évidemment plus longtemps, enfin, encore que il y a une interrogation sur ce sujet, et puis, en réalité, qui risque, si on n'y prend pas garde, de se trouver non pas victime uniquement de racisme ou de ceci, mais tout simplement en charge aussi dans un conflit de génération qui peut exister. Et je rappelle que aujourd'hui, plus de 60 ans dans notre pays, quand même, quel chiffre il faut avoir en tête, hein. Les plus de 60 ans, c'est 20% de la population. Ça va devenir 30% assez rapidement. Ça détient 60% de l'épargne financière. Donc c'est l'argent, il est là, hein. Il est pas ailleurs. C'est eux qui votent. Donc vous risquez d'avoir, dans les faits, une société qui n'est pas victime d'un racisme absolu vis-à-vis des plus de 60 ans, mais qui, en réalité, se trouve plutôt dominé par, des gens qui sont à partir de 45-50 ans, qui commencent à organiser des modes de vie, qui sont des modes de vie assez agréables, qui sont pas du tout vécus comme ceux de vieux, avec des problèmes majeurs. Vous prenez le cas de l'Allemagne. Tout le monde s'interroge, tout le monde se dit c'est terrible.
On dit qu'il y a une crise démographique.
Et c'est terrible, ils ont une croissance un peu moins forte, c'est évident. Je veux dire, c'est une croissance qui est celle d'un pays qui est vieillissant, où les gens, où la population active diminue, et vous allez avoir un moment, une tension entre les actifs et les non-actifs, tout simplement parce que il y en a certains qui payent, enfin les actifs vont payer pour les non-actifs. C'est comme ça, c'est normal, on peut dire c'est indu, ils ont. Mais dans les faits, il faut aussi le voir sous ce registre. Non pas d'un espèce de groupe qui est là, amené progressivement dans une espèce de vie, d'une mort prévisible et très très, mais aussi un groupe qui est plein de vie, qui vit très bien, il y a toute une partie qui vit très bien, et qui se sent tout à fait déterminant dans l'évolution de la société.
Il y a un collectif, c'était il y a un an, un collectif de familles et de personnel de santé, ça s'appelle Vieux Debout. Ils ont élu la ministre des personnes âgées, elle s'appelle Madeleine, elle a 93 ans, et ça rappelle effectivement qu'il n'y a pas de ministère de la vieillesse ou des retraites, c'est lié directement au ministère de la Solidarité ou de la Santé. Quel message est-ce que ça renvoie, Nicolas Menet, que toutes les personnes âgées sont dépendantes et en mauvaise santé, que quand on est vieux, on est malade, et la vieillesse, c'est de la fragilité avant tout. C'est ce que ça dit ?
Et ça dit qu'on a une perception déficitaire du vieillissement, donc c'est encore une fois une expression de l'agisme, puisqu'on voit le vieillissement comme une décadence. Or, vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui, sur 16 millions de personnes de plus de 60 ans, il y a 92% de ces personnes, ça ce sont les chiffres du ministère de la Santé, 92% des personnes qui sont autonomes, et il y a 8% des personnes qui touchent l'aide personnalisée à l'autonomie, donc qui sont réputées comme étant dépendantes sur le plan administratif. Donc le fait qu'il n'y ait pas de ministère dédié, ça prouve qu'on a cette vision déficitaire de la vieillesse, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour préparer justement une société de la longévité qui est favorable et positive, où la vieillesse est en fait une richesse finalement. Et là, je partage pas l'avis de Monsieur Lorenzi, qui parle d'une vision assez, d'un constat assez dramatique, qui est vrai, hein, par ailleurs, sur aujourd'hui, en 2040, on aura un actif pour 1,7 retraité, donc c'est un petit peu alarmant, et avec les périodes de crise qu'ont connues les salariés actuels, ils auront des retraites bien inférieures. Toutefois, les seniors français sont une véritable opportunité pour la société, non seulement parce que des innovations vont exister pour répondre à leurs besoins, parce que les gens actuellement sont des aidants aidants, donc ils s'occupent des personnes plus âgées qu'elles, donc ils sont en train de devenir experts dans leur propre vieillissement, donc ils vont se préparer eux-mêmes au vieillissement, parce que ils possèdent, comme vous l'avez rappelé, une grande partie du patrimoine immobilier. Ce patrimoine peut être liquéfié, c'est-à-dire qu'on peut le rendre liquide, et donc ils pourront remettre finalement des liquidités dans l'économie française. Et donc ils ont une vraie capacité de transformer, de transmettre la société justement avec un point de vue positif. Donc moi je m'oppose totalement à l'idée du péril gris, évidemment.
Véronique Denouette.
Alors ce n'est absolument pas un péril, bien entendu, c'est une chance de vieillir pour nous. Mais il faut remarquer que la France...
Jean-Hervé Lorenzi a fait la moue quand vous avez dit chance.
Oui, quand on explique, c'est beaucoup mieux d'avoir 80 ans que d'en avoir 20. Permettez-moi d'avoir encore un sourire sur le sujet.
Vous êtes content d'avoir l'âge que vous avez, monsieur Lorenzi.
Non, mais ça ne sert à rien de voir.
C'est ça que je veux dire.
On ne peut pas prendre un cas individuel, c'est sûrement le cas, mais encore que j'en suis pas sûr, mais pour étant une vérité absolue. Mais c'est vieillir, c'est pas le grand bonheur absolu.
Non, c'est vieillir, c'est pas renoncer, c'est s'adapter à la nouvelle donne tous les jours, ça c'est évident. Mais pour nous soignants, c'est effectivement très important de vieillir sans dépendance. Et nous avons rétrogradé, la France a rétrogradé au 11e rang du vieillissement sans dépendance. Et c'est là où il faut agir, et c'est là où les soignants doivent agir. Et dans mon hôpital, ça fait 34 ans que j'y travaille, eh bien, nous avions un centenaire il y a 34 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Elles sont nées en 1915. Puisque ce sont surtout des femmes.
On va approfondir cette question de l'autonomie et des aidants, et on va passer un coup de fil à Dominique Libaud. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous avez piloté une concertation sur le grand âge et remis en mars dernier un rapport très attendu qui va nourrir la future loi sur l'autonomie. Il est dense ce rapport puisqu'il contient 175 pistes, 175 propositions. On va pas toutes les développer ici. Laquelle est la plus urgente ?
Je en citerai deux. D'abord, pour être d'accord avec beaucoup des intervenants précédents, je dis qu'il y a un préalable, c'est changer le regard sur le grand âge. Donc, il y a un sujet sociétal, effectivement.
Changer les représentations, la manière de parler.
Notre regard. Mmh. Mais ensuite, ça amène à la première urgence, qui est, pour moi, les métiers du grand âge. Parce que une des conséquences de cette dévalorisation du grand âge, c'est aussi le manque d'attractivité des métiers du grand âge. Et pour moi, c'est, quand on voit très concrètement le sujet de la dépendance et de la prise en charge, que ce soit en établissement ou à domicile, ben oui, c'est le premier des sujets parce que on risque de ne pas avoir tout simplement assez de personnes demain, de personnes qualifiées pour prendre en charge les personnes âgées et surtout faire cette politique de l'autonomie qu'on attend tous. Parce que effectivement, c'est simplement gérer la dépendance, ben c'est pas très intéressant. Comme vient de le dire l'intervenante, on a un énorme sujet en France qui est d'améliorer notre assurance de vie en bonne santé, sans dépendance. On n'est pas très bon. Donc on a des possibilités de vieillir mieux. Mais ça demande d'abord une grande politique de prévention et ensuite du personnel qualifié aussi pour aider lorsque on arrive dans un stade où on doit être aidé, notamment pour les actes quotidiens de la vie.
Et ça demande de l'argent aussi à améliorer les conditions de vie. Vous l'avez estimé à combien ?
Alors, on a estimé que d'ici 2030, il faudrait environ 9 milliards à 10 milliards de plus pour traiter correctement ce sujet du grand âge, qui peut apparaître à la fois beaucoup, mais qui rapportait à l'ensemble des sommes de la protection sociale publique en France n'est pas très important. Aujourd'hui, la dépendance, le grand âge, c'est 3% de dépenses de protection sociale publique. Nos propositions conduisent à aller à 4%. Donc c'est un effort qui nous apparaît tout à fait soutenable dans la durée, mais il est indispensable de le commencer très vite et d'avoir une vraie volonté politique pour faire face à cette nécessité qui est notamment une nécessité démographique, puisqu'on a évoqué le fait que le papy-boom, il a commencé en France, mais l'arrivée au très grand âge des générations nombreuses nées dans les milieux d'après-guerre, c'est pour dans quelques années.
Dernière question, elle existe cette volonté politique que vous évoquez ?
On le verra avec le grand âge, mais pour l'instant, oui, je pense qu'elle existe.
Votre sentiment à vous.
Une commande une commande du Premier ministre. Il a été remis au Premier ministre Agnès Buzyn, qui a immédiatement fait des annonces, notamment l'annonce d'un plan métier grand âge qui est confié à Madame El Khomri, et d'une loi grand âge pour la fin de l'année. Ça a été confirmé dans les annonces du Premier ministre, du Président de la République. Donc, voilà, je pense vraiment qu'il y a une volonté politique de changer notre politique du grand âge et qu'il y a une prise de conscience de cette nécessité.
Merci Dominique Libaud d'avoir interrompu vos vacances. Très bonne journée. Véronique Noët, on évoquait les métiers du soin liés à la vieillesse. Effectivement, ils ne sont pas considérés comme attractifs. Il y a quelque chose qui m'a frappée, qui me frappe. Quand on demande à un enfant, une petite fille, ce qu'elle veut faire plus tard, elle peut dire « je veux m'occuper d'enfants, je veux travailler avec des enfants ». Personne ne dit « je veux m'occuper de petits vieux quand je serai grande ».
Oui, ou de grands vieillards, ou de petites vieilles. Oui, effectivement. Moi, on me dit souvent « mais qu'est-ce que tu as fait pour être psychiatre ?» En gériatrie, c'est la double peine. Alors, effectivement, il faut les rendre attractifs parce que je pense que je fais le plus beau métier du monde dans mon hôpital où je suis seule psychiatre pour les 1000 lits de mon hôpital gériatrique. Et il faut non pas donner aux plus précaires d'entre nous l'opportunité par des raisons économiques de s'occuper des personnes âgées, mais faire des vrais métiers du grand âge. Et moi, j'interviens énormément dans les formations des assistants de soins en gérontologie, dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes. Et c'est la crise des EHPAD que nous avons connue en 2017 et en 2018.
Et qui continue
avec une mission flash qui a été confiée à Madame Caroline Fiat et Madame Iborra, avec un rapport qui est sorti. Et l'avis 128 du CCNE, du Comité Consultatif National d'Éthique, est extrêmement vindicatif là-dessus, et je les suis. Montre bien que ce qu'elles veulent, c'est des êtres humains. Elles ne veulent pas des robots, elles veulent un être humain pour aider une personne âgée, dépendante.
On va parler des robots de la Silver Economy. Je voudrais vous lire le témoignage d'une auditrice, c'est Christine qui raconte ceci. Mes parents âgés et très handicapés viennent d'être congédiés par leur médecin généraliste après 15 ans de bons et loyaux services parce qu'il ne veut pas se déplacer à domicile. Leur réaction, on n'a plus qu'à crever. La médecine ne va-t-elle plus accompagner dignement ces vieux?
J'ai très honte d'entendre ça et madame, je voudrais vous rassurer. Si la médecine forme les capacitaires en gériatrie, la médecine se doit d'accompagner. Le médecin de famille est, à mon avis, le plus beau des métiers aussi, puisqu'il vieillit avec sa patientèle. Et venez me voir dans mon hôpital, on s'occupera de vous. Et nous parlions tout à l'heure de la prévention avec Monsieur Libaud, Dominique Libaud. Nous avons des consultations bien vieillir dans notre hôpital, ou mieux vieillir. Et ça, c'est très important de porter un message fort, par exemple de l'IMPES, l'Institut National de la Prévention en Santé, qui a des petites brochures gratuites que j'ai dans ma salle d'attente, qu'on peut disposer en pharmacie partout. Il faut qu'on se saisisse de ces opportunités-là. On sait agir sur les facteurs de risque du vieillissement avec pathologie.
C'est pas qu'une question française. Aux Pays-Bas, il y a une députée, il y a quelques temps, qui a déclenché un tollé. Elle a proposé de diminuer, voire de cesser les traitements des patients les plus âgés à l'hôpital. C'est évidemment une question éthique importante. C'est tabou en France, Jean-Révé Lorenzi, de cette idée-là.
Oui, du moins je l'espère. Je pense que il y a des fous.
C'est pas du tout débattu dans les hôpitaux,
juste
dans la profession.
Instant à revenir un instant sur ce que Dominique Libaud a dit. Dominique Libaud a fait un très bon rapport sur le sujet le plus explosif de la société française, c'est-à-dire en termes financiers. Il chiffre à 9 milliards. Honnêtement, il le chiffre dans la version la plus raisonnable de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je rappelle que juste la semaine dernière est sorti ce chiffre sur le nombre de personnes qui seraient en réalité dépendantes. Il y en a en gros 1 million aujourd'hui. Et on dit en 2050, il y en aurait 4 millions.
On peut définir ce que c'est que la dépendance déjà?
Oui, c'est la difficulté, vous devez mieux le savoir.
C'est la dépendance sur les actes de la vie quotidienne. Avoir besoin de quelqu'un pour faire ses besoins, pour préparer son repas, pour gérer les médicaments, pour gérer les transports, les communications. Nous avons des échelles de dépendance que nous utilisons quotidiennement à l'hôpital.
Personne aujourd'hui ne sait quelle sera l'évolution de maladies neurodégénérescentes. Personne n'a que d'une idée sur le sujet. Donc, il faut bien, qu'on voit qu'on rentre dans un univers très incertain. C'est un univers, alors c'est bien qu'il y ait eu ce rapport, qui est un très bon rapport. Les gouvernements font très attention, puisque le précédent du précédent, avait évoqué l'idée de faire une nouvelle branche de la sécurité sociale. C'était le président Sarkozy. Tous les gouvernements, en réalité, savent que c'est un sujet qui est absolument déterminant. Un chiffre, un seul chiffre, si, ce qui ne veut rien dire, mais juste en ordre de grandeur, si on payait les aidants, c'est-à-dire les gens, mais familiaux, c'est-à-dire vous aidez, vous avez 50 ans, vous aidez vos vieux parents qui sont diffusés, si on les payait 9 euros de l'heure, ça coûterait 140 milliards d'euros. Donc, vous imaginez le sujet explosif que représente dans les faits, dans les années qui viennent. Je trouve qu'il faut le prendre avec beaucoup d'intelligence, de modestie, on ne sait, on n'a pas qu'une idée de ce qui va se passer. En revanche, la question de votre approche, au fond, sur les personnels est très intéressante, parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est les aidants familiaux qui gèrent le dispositif, mais à un moment, on va créer des emplois. On avait dit qu'on allait créer 700 000 emplois, mais c'est pas très attractif, et je trouve que la manière de poser cette question par l'attractivité est très intelligente.
Oui, parce qu'on parle beaucoup des établissements de soins, des EHPAD, en réalité, il y a quand même une immense majorité des seniors, des vieux, qui veulent rester le plus longtemps chez eux, qui veulent continuer à vivre, voire mourir chez eux, ils le disent clairement. Ça pose quand même la question cruciale de l'autonomie, et ça passe par l'adaptation de l'habitat, évidemment, mais aussi de l'espace public, des transports. Est-ce qu'on a des villes aujourd'hui en France qui sont adaptées aux vieux, Nicolas Menet ? Est-ce que c'est facile de se déplacer dans la rue quand on est vieux aujourd'hui ?
Ça, c'est effectivement les deux
points. Véronique Desnoyers dit non de la tête, mais je vous écoute.
Les deux points clés, effectivement, pour construire la société de la longévité, c'est effectivement le maintien à domicile, enfin le soutien à domicile, le fait de pouvoir rester dans un domicile adapté qui n'est pas source de danger. Donc là, il y a un premier frein psychologique. En général, les personnes ont du mal à se dire qu'il faut aménager l'habitat ou qu'il faut déménager. Après, il y a des choses très simples à faire hein, sur l'aménagement de l'habitat qui sont pas forcément coûteuses. Et il existe énormément d'aides aussi d'État sur ce sujet. Des collectivités qui peuvent vraiment participer au fait de rester au domicile. Et le deuxième point, bien sûr, c'est la mobilité. Les seniors français, de par le mode de vie qu'ils ont adopté, se retrouvent souvent dans des zones périphériques aujourd'hui, dans des pavillons qui ne sont pas forcément adaptés. Des zones qui sont parfois délaissées par les transports publics parce que la voiture était le seul moyen de transport et aujourd'hui la voiture est moins utilisée parce que les centres-villes s'engorgent, parce que les centres-villes se revivent à nouveau, et donc il y a une double peine, comme on disait tout à l'heure, habitat non adapté et difficulté de pouvoir bouger, et le voyage dans une ville devient une péripétie insurmontable parce qu'on peut pas aller aux toilettes, parce que le chauffeur de bus est un peu trop violent, et donc il y a des toutes petites choses comme ça qu'on peut faire, effectivement, et c'est les deux points clés, hein, l'habitat et la mobilité, qui permettront de construire cette société de la longévité.
On reprend cette discussion, cette conversation, juste après cette chanson de Georges Brassens, « Pas le vieux Léon, c'est trop facile, c'est Marquise ».
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
Chanson totalement validée par mes trois invités dans ce studio. La programmation musicale, Elsa Béranger.
Le débat du midi, Nadia Dame sur France Inter.
Jean-Révé Lorenzi, qu'est-ce qu'il faut croire? Parce qu'on a vraiment deux discours. Il y a ceux qui disent que le vieillissement ralentit la croissance économique, ceux au contraire qui voient une opportunité, qui ment.
Personnellement, mais il y en a des plus ou moins bons. Évidemment que ça ralentit pour des tas de raisons. La première raison, ça, il y a évidemment le fait que le prélèvement sur l'ensemble des richesses créées est de plus en plus important. On va venir à l'aspect positif, l'opportunité, mais elle n'est pas du même ordre. Et c'est sûr que les actifs y produisent et les autres consomment. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, des sociétés innovantes, c'est quand même, on invente plus de choses dans un garage à 20 ans qu'à 80 ans.
Quand on est jeune que quand on est vieux.
Évidemment. Donc, c'est un des paradoxes de présenter la société.
Nicolas Menet n'est pas d'accord,
oui,
mais.
Oui, parce qu'on peut imaginer
quand même des personnes de 90 ans ou 80 ans avoir des idées géniales.
Je parle pas. Ouais. Évidemment qu'on peut être très innovant, très talentueux. Il y a des tas d'innovations. On va nuancer après. Mais la réalité, c'est qu'une société vieillissante est a priori moins, formule moins d'envie d'innover qu'une société un peu plus jeune. Il suffit d'aller en Californie pour voir ce que c'est qu'une société innovante.
Et c'est troisième la start-up aspect, nation là, que vous êtes en train de décrire, c'est ça?
Comment le?
La start-up nation, c'est ce que vous êtes en train de décrire, jeunes, mobiles.
Non, parce que je trouve que c'est pas. En réalité, j'ai pas une passion pour la start-up nation. Donc, vous voyez, je suis pas sûr. Je dis juste que ça ralentit les croissances. Mais on a vécu des siècles entiers avec des croissances qui n'étaient pas celles qu'on a connues il y a 30 ans. Donc c'est juste un truc d'économiste. Après, il y a des jugements, ce qu'on aime, on ce qu'on n'aime pas. Le troisième aspect, c'est que l'essentiel de l'épargne disponible, c'est-à-dire l'argent qui est disponible pour investir, il est entre les mains des vieux. Et les vieux, ça c'est de la théorie économique de base, ils sont, j'allais dire, averses au risque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de prendre des risques. Moi, si vous me proposez de me lancer dans une start-up qui donnera des résultats dans 20 ans, je regarde avec, parce que vous êtes vachement sympa, je regarde avec sympathie et je dis, elle est très très gentille, mais je vais lui dire non. Voilà. Donc, c'est trois raisons qui font. Alors maintenant, c'est une opportunité et mon camarade va le développer. Évidemment qu'il va y avoir des activités pour les personnes âgées ou les seniors. Évidemment que les croisières pour les plus heureux d'entre eux, ça marche du feu de Dieu. Évidemment que, etc., etc.
Il y a les plus heureux et les plus privilégiés, ils sont rares.
Oui, enfin, il y en a beaucoup, je dirais. On n'est pas dans les faubourgs de New Delhi. Il y a beaucoup de personnes âgées. C'est très, très dispersé comme moyen. Il y a beaucoup de pauvreté. C'est le sujet numéro un qui devrait conduire l'activité d'un gouvernement sur le thème de la vieillesse.
Et des retraités pauvres.
Ah, mais il y a beaucoup.
Extrêmement
pauvres. La pauvreté, des gens qui vivent dans des conditions absolument inacceptables. Et puis, il y a beaucoup qui, finalement, vivent assez bien. Qui sont propriétaires de leur logement et qui vivent assez bien.
Oui, pardon, j'insiste, mais c'est un peu vague, beaucoup, pas beaucoup. C'est combien? C'est que ceux qui partent en croisière, les retraités qui partent en croisière, ils représentent combien?
Ce sont mes chiffres, je cite les trucs. Je pense qu'il y a 20% donc c'est au-dessus de la moyenne des plus de 60 ans qui sont ce qu'on appelle retraité, c'est moins de 60% de ce qu'est le revenu moyen des autres retraités. Je pense qu'il y a 20%. Et il y en a 30-40 qui sont moyens, puis il y en a 30-40 qui vivent de manière très assez agréable, oui.
Nicolas Menet.
Je voudrais rappeler que la pension de retraite moyenne est de 1 250 € en France, pour être précis. Je pense que Jean-Hervé Lorenzi parle d'une société où le parcours de vie était institutionnalisé, c'est-à-dire que on a l'enfance, le travail, la retraite, et ce qui fait qu'effectivement la retraite vue comme ça pèse énormément sur les actifs. Sauf qu'aujourd'hui, du fait des carrières chaotiques, notamment des futurs grands retraités qui vont arriver, dont a parlé Dominique Libault tout à l'heure sur les boomers qui ont eu des longues périodes de chômage, etc., les pensions de retraite vont être encore plus basses, et ce sont des gens qui vont être obligés finalement de continuer à avoir des activités rémunérées, et l'économie collaborative va permettre d'avoir des compléments de revenus. Donc là, déjà, on a un allègement, entre guillemets, en termes de financement. Et le deuxième point, c'est que je suis pas du tout d'accord sur le fait que la société vieille n'est pas créative.
Absolument pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que le niveau de croissance, c'est un truc d'économiste, là. Chacun son métier, voilà. Mais j'ai juste dit que le ralentissement auquel on y assiste, c'est sous vos yeux, le ralentissement, par exemple, de l'Allemagne est lié au vieillissement de la population. Ça ne veut pas dire que c'est une société qui est non créative, ça ne veut pas dire que c'est pas une société sympathique, c'est la mienne, moi je l'aime bien, mais c'est une réalité économique.
Il y a deux points qui sont vraiment importants.
C'est
effectivement le fait que les personnes vieillissent, elles ont des besoins liés à la sénescence, c'est-à-dire au vieillissement naturel. Ça ne veut pas dire que ça va devenir des super consommateurs, etc. Mais on peut créer des innovations sur la mobilité. On l'a vu tout à l'heure, des applis, puisque par exemple les futurs boomers, futurs retraités sont très digitalisés, donc ils savent utiliser des applis pour le transport. Ces applis peuvent après s'exporter. On peut du coup créer de nouvelles poches de valeur qui sont spécifiquement françaises. Bien sûr, le marché domestique français, parce qu'on parle de 16 millions de personnes de plus de 60 ans, c'est un tout petit marché, mais il y a l'Europe, il y a la Chine, il y a l'Asie, il y a les États-Unis, etc. Donc on a la possibilité de créer des innovations qui vont s'exporter dans le monde entier et qui vont créer des nouvelles poches de valeur. Donc là, il y aura une compensation finalement à ce niveau-là. Ça, c'est un point vraiment qui est fondamental sur l'innovation. Alors c'est vrai que c'est une petite partie. Et la deuxième chose qui est fondamentale, et on l'a dit tout à l'heure, ce sont les aidants. Les aidants, et je le répète, c'est la première génération, et ça c'est une configuration unique, qui va devenir expert dans son propre vieillissement, parce qu'ils ont vu des gens, leurs parents, vieillir, ils les ont accompagnés, parfois effectivement dans des conditions extrêmement difficiles, parfois non. Ces aidants, ils vont être dans une logique de prévention, ils le sont. Aujourd'hui, Silver Valley a un dispositif qui s'appelle l'Open Lab, on a 9000 personnes âgées entre 60 et 90 ans, qui tous les jours nous racontent leur vie de senior, et on voit bien que les aidants sont experts dans leur propre vieillissement. Donc, ils vont par définition peser moins sur le système de santé. Donc, à la fois, effectivement, c'est très inquiétant cette dimension de la retraite, mais en même temps, on a des comportements qui changent.
Parmi les produits qui sont proposés aujourd'hui pour faciliter la vie des seniors, vous évoquiez les applis. Est-ce qu'il n'y a pas des gadgets qui peuvent paraître un petit peu déshumanisants ? Je pense aux robots, par exemple. On a beaucoup vu des images de robots qui entrent en interaction avec des personnes âgées. Véronique Desnouettes,
moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce dont ont besoin nos personnes âgées, en tous les cas, celles dont je m'occupe, 5%, rassurez-vous, des grands vieillards, malades. Vieillir n'est pas une maladie. Les miens sont très dépendants et pauvres dans mon hôpital. Ils sont minimum vieillesse, c'est-à-dire 800 euros par mois, et on ne peut pas vivre à Paris, en région parisienne, avec 800 euros par mois. Donc leur proposer, au lieu d'un soignant, à faire de l'art-thérapie comme je fais avec eux, ou la musicothérapie, leur proposer un robot empathique ou interactif me semble inadapté. C'est pas ça qu'ils souhaitent. Alors nous avons développé ce qu'on appelle la thérapie par les animaux de compagnie. Nous avons des associations avec des chats, un gros chat qui ronronne sur les genoux d'une vieille dame très dépendante. C'est le meilleur des antidépresseurs.
Nicolas Menet, ça vous met au chômage si on arrête d'utiliser des robots et des applications pour s'occuper de nos vieux ?
C'est pas la même
population. Non, d'abord, c'est pas la même population, puis surtout, c'est vraiment minime. Et puis les robots, aujourd'hui, on les voit effectivement comme une prouesse technologique. On est vraiment une sorte de survalorisation de la technologie, mais en réalité, la plupart de ces robots requiert en fait la présence d'une personne humaine. Et l'intérêt, c'est que justement dans le cadre de la grande dépendance, les robots dits sociaux vont être pilotés par des personnes humaines. Et la force de la technologie, c'est d'être une aide humaine et non pas de remplacer l'humain. Je pense qu'on a dépassé ce stade aujourd'hui dans la technologie où on pense que la technologie peut tout et on va tout remplacer par des robots. C'est faux. Aujourd'hui, justement dans le cadre de la dépendance, on voit bien, et là vous parlez de la médiation animale qui est extrêmement, qui a des résultats très favorables sur les personnes âgées dépendantes. Voilà, je veux juste donner un exemple concret, si vous permettez, sur l'Alzheimer. On a chez Silver Valley, on a donc ce concours d'innovation, la bourse Charles Foix, et a été récompensé un plaid intelligent qui intègre en fait de la technologie, et en fait ça permet de calmer les crises des personnes Alzheimer en quelques minutes, là où un soignant va mettre plus de temps, et le plaid va pouvoir être accompagné par la personne. Donc la technologie est une interface avec les personnes, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le concevoir aujourd'hui, et c'est ça qui est positif et innovant.
Dans les pays du Nord, il y a une pratique qui est très différente par rapport à la France. On encourage le travail des seniors, pas les très grands seniors. On encourage le travail des seniors. On essaye de les garder sur le marché du travail. Jean-Hervé Lorenzi, c'est une idée, c'est une piste.
C'est le débat du rapport de Levoir. Puisqu'au fond, derrière un peu de présentation habile d'un âge pivot, dans les faits, on propose que les gens restent travailler jusqu'à 64 ans, ce qui est, j'allais dire comptablement, je dis bien comptablement, c'est pour ça qu'il faut être très nuancé sur tout sujet, comptablement, une des solutions. Parce que, quoi qu'on dise, la retraite, ça, c'est aujourd'hui, c'est 14% du PIB en France. S'il n'y avait pas des réformes de retraite, ça pourrait être beaucoup plus important. Donc, moi, je suis favorable à deux choses. Je pense que c'est quand même, en réalité, une incitation forte de pousser les gens à travailler plus longtemps, parce que je trouve que... Et deuxième aspect, dans le livre qui s'appelle « L'erreur de Faust », nous proposons avec mes deux camarades, en réalité, une société d'activité. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que... Alors là, ce sont les seniors... Donc ce sont ceux qui ne sont pas, les 95% qui ne sont pas en situation de difficulté, qui doivent rester très actifs. Très actifs, ça veut dire très au service de la société. Ça veut dire que, quelque part, les gens qui viennent des catégories, des CSP plus des catégories, ont tendance assez naturellement à s'occuper d'associations, mais la personne qui en réalité arrive un peu en ayant une formation très faible, une qualification, elle a du mal à s'insérer dans un monde d'activité qui est souhaitable. Or là, toutes les chiffres le montrent, l'activité, le maintien en activité, ça permet de rester, de renforcer la longévité et de rester en vie, en bonne santé, plus longtemps.
Oui. Véronique Demnotte, est-ce que tout le monde a forcément envie de travailler plus longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas des vieux qui veulent tout simplement être inactifs? C'est-à-dire que le discours qui consiste à dire « il faut se bouger, il faut travailler », etc., est-ce que c'est audible par tout le monde?
Ben, tout le monde, non, bien entendu, puisque ce sont que des singularités. Vous avez des gens qui sont épuisés.
Sans parler de problèmes de santé, on
peut... Oui, il y a des gens qui sont épuisés au travail. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui la grande souffrance au travail, les risques psychosociaux. Vous avez des gens qui attendent la retraite comme on attend le Graal pour enfin vivre, hein, avec une vision extrêmement positive de la retraite. Mais vous avez parfaitement raison sur la cognition, sur la marche, travailler, faire travailler son cerveau.
Le souci de soi.
Le souci de soi et des autres. Hein, et des autres permet de donner, de booster votre cerveau, de donner de nouvelles connexions synaptiques, et ça, c'est extrêmement important.
Nicolas Menet, rapidement.
Oui, mais je vais faire le portrait du retraité de demain, donc 2027. Les boomers sont dans un âge plus avancé. Effectivement, on aura deux jours dans la semaine qui sont consacrés à ne rien faire, parce que ça fait partie aussi des plaisirs de la retraite. Peut-être une journée ou deux où un investissement bénévole sera nécessaire. Et je pense, quand vous parlez d'activités contraignantes, oui, c'est pas forcément le travail salarié, c'est s'investir dans la société, être en contact avec d'autres générations qui ne sont pas de sa famille, qui nous obligent à nous adapter. Et on aura sans doute une ou deux journées où on sera impliqué dans des activités d'économie collaborative. Alors voilà, par exemple, faire le chauffeur, etc. Où on va avoir des compléments de revenus qui permettront d'avoir une retraite plus intéressante. Voilà un petit peu le portrait du retraité de demain.
Je vous lis le témoignage que nous a envoyé Pierre, un commentaire que nous a envoyé Pierre. Il est très très énervé. Voilà ce qu'il dit. C'est pas nous les vieux qui nous sentons vieux, ce sont les autres, les petits cons qui nous le font sentir. Et je te cède la place dans le bus et je te propose de porter ta valise. Il m'énerve. Alors pour le calmer, on lui mettrait pas un petit Norah Jones? Every thought that I ignore, another question's at my door. It's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of luck?
had a nation built on blood, find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop, can we begin again, can we begin again, can we begin again, can we
Begin Again, Norah Jones, et c'est presque la fin de cette émission, mais avant, c'est l'heure de la question rituelle du jour, celle que je pose à tous mes invités. Avec quelle personnalité vivante ou disparue rêvez-vous de débattre? Qui veut répondre en premier?
Le débat de midi sur France Inter.
Ouais. Bien, j'ose Allez-y. Répondre.
Jetez-vous à l'eau.
Avec Michel Serres, hein, qui était plein d'élan vital,
récemment
disparu, et qui était à cheval entre le grand âge, l'œil qui frise, la volonté de vivre et la petite poussette. Donc il est en plein dans notre sujet du jour.
Jean-Hervé Lorenzi.
C'est pas débattre, c'est écouter. Mais enfin, de temps en temps, en posant une question, Claude Lévi-Strauss, parce que c'est l'idée à la fois de l'interdisciplinarité, et puis c'est l'idée qu'il y a des mythes fondateurs. Je ne sais pas quel sera le mythe fondateur. Nicolas a balayé la technologie à juste titre, le mythe, cette espèce de mythe sur la technologie et la connaissance. Mais sur quoi on va sonder l'évolution de la société du vieillissement, ça, j'en sais rien.
Nicolas Menet.
Moi, je dirais Edgar Morin, parce que c'est une personne âgée qui montre que même dans le très grand âge, on a une capacité, une puissance de pensée, de créativité qui est hors norme. Et comme Jean-Hervé, je n'aurais pas la présomption de dire que je vais débattre avec lui, mais je l'écouterai.
Merci à tous les trois. Je rappelle vos différentes publications, elles sont nombreuses. Docteur Véronique Lefèvre, des Nouettes, vous publiez un livre à la rentrée, Que faire face à Alzheimer, aux éditions du Rocher. Jean-Hervé Lorenzi, c'est l'erreur de Faust aux éditions Descartes, c'est ça?
J'ai sur des cartes.
Vous avez oublié le nom de votre éditeur, il a précisé
la qui était déjà qui sont très remarquable.
Et Nicolas Menet, vous avez dirigé la publication du grand livre de la longévité aux éditions Erol. C'est bien ça?
Qui sortira le 20 novembre voilà. Aux éditions Erol.
Merci également à Caroline Pommès qui a préparé cette émission. Au programme du débat de midi de demain, tout sur le tatouage, le vrai, le faux, le laid, le beau. On attend vos témoignages et vos photos, peut-être de tatouages sur Twitter et à la page du débat de midi sur France Inter.